Les deux orphelines, première partie, chapitre 16. La Frochard sortait du cabaret, mais ce n'était pas sans peine qu'elle était parvenue à brûler la politesse, comme elle disait, à l'aimable société. Lorsqu'elle avait parlé de se retirer, tous les amis de Jacques avaient, d'un commun accord, fait le cercle autour d'elle en chantant. « S'en ira, s'en ira pas !» Et Jacques criait et chantait plus fort que tous les autres. Mais la vieille femme, en mendiante pratique qu'elle était, se disait qu'il faudrait dès le lendemain matin se remettre à la besogne. S'adressant alors à son fils. « Mon chérubin, fit-elle, il ne faut pas que je passe la nuit ici. C'est pas que ça serait déplaisant, mais les affaires avant tout. Il sera plus sage de rentrer. » Le beau Jacques comprit l'importance de l'argument, car il fit signe à ses amis de rompre le cercle formé autour de sa mère. La Frochard sortit triomphalement du cabaret. Et en passant près de son fils, elle lui dit « Si tu veux rester encore, ne te prive pas, mon chérubin. L'avorton a l'habitude de m'attendre. Il doit être encore par là. » Puis, avant de s'éloigner, elle s'était retournée pour donner un dernier regard à son fils en murmurant à part soi. « Et Thibault, le chérubin là, comme ça vous alvinguait !» Et transportée d'amour maternel, elle envoya de la main deux tendres baisers à son Jacques. Après le départ de la mendiante, le tapage avait recommencé de plus belle. Cependant, Jacques se fatiguait de cette orgie. Depuis quelques instants, il paraissait presque soucieux. Était-ce le souvenir de Marianne qui produisait ce changement ?« Voyons, voyons, qu'est-ce que t'as donc, Jacques ? » lui cria-t-on du bout de la table. « Est-ce que t'as peur qu'on t'ait enlevé ta Marianne ? La grande fille qui tape dur et boit sec ?» ajoutait une voix. « Ou bien est-ce que t'as un autre amour dans le cœur ?» dit un troisième convive. Excité par ces lacis, le beau Jacques releva la tête et, comme s'il eût chassé un souci passager, il frappa du gobelet sur la table en criant. « Hola, cabaretier, du vin, et du meilleur, encore du vin, toujours du vin !» Tout d'abord, par souci de son état voisin de l'ébriété, la Frochard n'avait pu se rendre bien compte de ce que faisait le rémouleur au moment où elle l'avait aperçu. Dans l'obscurité, elle n'avait vu qu'un groupe. Elle fit donc quelques pas en titubant un peu, n'ayant pas encore complètement repris son aplomb depuis sa sortie du cabaret. Mais elle avait la cervelle forte, cette mendiante, et elle pouvait, à l'occasion, tenir tête à bien des buveurs. Aussi fut-elle bientôt en état de s'approcher assez pour interpeller Pierre. « C'est-y bête d'être timide et renfermé comme tu l'es, l'avorton ? T'aurais mangé, bu, chanté et crié autant que les autres, tandis que t'es resté là, comme un Nicodème, à te ronger le cœur et à m'attendre. » Le rémouleur, embarrassé de s'entendre traiter de la sorte en présence de la jeune fille, voulut se risquer à faire à sa mère signe de se taire. Mais la Frochard, qui ne comprenait pas que ce misérable boiteux osa lui imposer silence, la Frochard mit ses deux poings sur ses hanches. Et tout en parlant, elle s'était approchée. En apercevant Louise, elle faillit pousser un cri de surprise. Mais le rémouleur avait un air si suppliant que la vieille femme comprit aussitôt qu'elle devait changer de langage. C'est ce qu'elle fit en prenant sur un ton doucereux. « Qu'est-ce que vous avez donc, mamselle, à trembler comme ça ? On dirait une pauvre petite tourterelle !» Pierre voulut intervenir. « Cette demoiselle, dit-il, a manqué d'être écrasée par une voiture. » « Quand ça ?» demanda la mendiante en feignant de porter grand intérêt à l'inconnu. « Mais tout à l'heure, donc !» Et, s'empressa d'ajouter Louise, « si monsieur ne s'était pas trouvé là pour me porter secours... »« Qui ça ? L'avorton ?» s'exclama la vieille femme. Puis, sur un signe de son fils, elle baissa la voix pour ajouter. « Comment ? Mon fils ? C'est toi qui as eu le bonheur de sauver mademoiselle ?» La Frochard entrevoyait déjà la possibilité d'une récompense, aussi se rapprochant de Louise. « Faut pas trembler comme ça, mamselle » fit-elle. « Y a plus de danger !» Pierre ne quittait plus la jeune fille des yeux. Mais la Frochard était bien trop occupée maintenant pour s'apercevoir de l'air satisfait du rémouleur et de la singulière mine que faisait ce pauvre boiteux. Elle avait pris la main de Louise et disait à celle-ci. « Comment ça vous est-il donc arrivé, mamselle ? Une voiture ? Ça s'entend d'assez loin. Ça se voit, et la rue est bien assez large pour qu'on se gare. » Toute tremblante, Louise se cramponnait à la personne qui lui parlait de ce ton apitoyé. « Oh, madame » murmura-t-elle d'une voix qui témoignait de l'émotion la plus vive. « Madame, ne me quittez pas. Je vous en supplie. » Pierre avait fait un pas et regardant sa mère. « Pauvre demoiselle, » dit-il, « il était temps que je la retire de dessous les chevaux. Les roues allaient lui passer sur le corps. Il y a bien de quoi être encore effrayée. » Puis, s'approchant de Louise, « Mais maintenant, calmez-vous, mamselle, c'est fini. » D'un coup de coude, la Frochard repoussa le rémouleur. Il ne lui plaisait pas qu'il fît si peu valoir le service qu'il avait rendu à l'inconnu. Et s'adressant à celle-ci, « Vous aviez donc tout à fait perdu la tête, ma petite » fit-elle en haussant les épaules. « Ah oui, madame, j'étais folle. Je ne savais plus ce que je faisais, où j'allais. »« Pardier !» ricana la mendiante. « Vous alliez tout droit à ce qui paraît sous les roues de la voiture. »« Madame, je vous en supplie de nouveau, ne vous éloignez pas de moi, ne me quittez pas. » La Frochard était tout à fait dégrisée. Depuis quelques secondes, elle ne détachait pas les yeux du visage de la jeune fille, et son regard semblait dire à Pierre « Pour une fois, l'avorton, tu auras eu la main heureuse !» Qu'entrevoyait déjà cette misérable créature? La possibilité de rendre service à quelqu'un? Assurément non. Elle n'avait le cœur sensible que pour son Jacques, le beau gars, le vrai portrait et tout le sang du père Brochard. Pour s'intéresser ainsi qu'elle le faisait à cette jeune fille, il fallait qu'elle eût l'espoir d'avoir trouvé une affaire lucrative. Elle pensait avoir mis la main sur quelque naïf enfant de province qui devait posséder de bonnes petites économies. Pour s'en assurer, la mégère hasarda. « C'est égal, ma petite. Il n'y a pas de prudence à rester tard comme ça, dans les rues et sur les places publiques. C'est dangereux à Paris, surtout si on a de l'argent sur soi. » Elle attendit la réponse avec quelque anxiété. « Ah, madame, » répondit Louise, « je n'étais pas seule dans cette rue. Ma sœur était là, près de moi. »« Votre sœur ?» dirent en même temps Pierre et la Frochard. « Oui, il n'y a qu'un instant. Eh bien, où est-elle à cette heure ? On l'a enlevée. » « Enlevée ?» Ce cri s'était échappé des lèvres du rémouleur. « Enlevée ?» répéta la mendiante. Louise avait caché son visage dans ses mains. La pauvre enfant pleurait à chaudes larmes. « Voyons, ma petite, » reprit la Frochard, « faut pas vous faire du chagrin comme ça. Ça se retrouve, une sœur, que diable. Surtout qu'elle est grande, sans doute. Elle a 18 ans, comme moi. »« 18 ans !» fit la mendiante en poussant un soupir significatif de regret. Puis, toujours très empressée auprès de la demoiselle, « On ne l'a peut-être pas enlevée pour de vrai. »« En tout cas, » dit Pierre, « il faut tout de suite aller prévenir vos parents. »« Oui, c'est ça même, » ajouta la Frochard. « Nous vous accompagnerons, » déclara Pierre. Mais Louise étouffa un soupir. « Hélas, » dit-elle à mi-voix, « nous n'avons pas de parents. »« Vous dites ?»« Oui, madame, nos parents... »« Ne sont pas à Paris ?» demanda le rémouleur avec empressement. « Ils sont morts !» prononça Louise d'un ton attristé. Et saisissant les mains de la mendiante, elle ajouta en sanglotant. « Nous sommes orphelines !» Pierre était profondément ému. Le brave garçon essuyait, du revers de sa grosse main de travailleur, une larme qui lui était venue aux yeux en voyant pleurer la jeune fille. Quant à la mégère, elle éprouvait un secret contentement de tout ce qu'elle apprenait. Néanmoins, elle poursuivit en essayant d'adoucir sa voix. « Si vous n'avez pas de parents, vous avez du moins des connaissances dans la ville. »« Eh bien, » dit le rémouleur, « on les retrouvera, ces connaissances. Nous vous ramènerons à vos amis. »« Nous sommes arrivés à Paris il n'y a que peu de temps, » déclara Louise, « et nous n'y connaissons personne. » Pour le coup, la Frochard ne put dissimuler sa vive satisfaction. C'est avec un éclat de voix plus sonore qu'elle répéta « Personne !» Mais Pierre était on ne peut plus émotionné, lui. Autant sa mère éprouvait de contentement à la pensée qu'elle allait tirer un bénéfice quelconque de cette aventure, autant l'honnête rémouleur désirait être utile à l'orpheline qu'on avait brusquement séparée de sa sœur. Et s'adressant à Louise, « Mamselle, lui dit-il, qu'est-ce que c'était donc que les gens qui ont emmené votre sœur ?» La jeune fille, gardant le silence, le rémouleur reprit, « Des gentilshommes ou des autres ?»« Et comment le saurais-je ? » soupira Louise. « Ça se voit par diète aux habits !» fit la Frochard. « Mais je suis aveugle, madame !» balbutia la pauvre fille. « Aveugle ?» fit la mendiante. Et dans l'exclamation qui s'échappait de sa bouche, il y avait une expression étrange. La mégère regardait avec la plus vive attention le visage de la jeune fille, et ses vieilles joues ridées s'enluminaient subitement, comme si la hideuse créature eût caressé déjà quelque odieux projet. Et, tout à la joie qu'elle éprouvait intérieurement, la mendiante ruminait à mi-voix, comme se parlant à elle-même. « Sans parents, sans connaissance à Paris, c'est une chance qui m'arrive là. Sans compter que c'est jeune, c'est gentil et aveugle. » Le rémouleur avait par hasard entendu ces derniers mots, car il s'approcha tout près de sa mère pour lui dire à l'oreille. « N'est-ce pas, mère, qu'elle est bien jolie ?» Et le pauvre boiteux répétait tout bas pour lui seul cette fois. « Oh oui, bien jolie !» La Frochard eut un mouvement de mauvaise humeur à l'adresse de son fils qui se permettait d'avoir un avis sur la jeunesse et la beauté de l'inconnu. Elle toisa dédaigneusement le boiteux en lui disant « Va reprendre ta boutique, c'est assez de moi ici pour m'occuper de mademoiselle. » Mais Pierre ne se sentit plus offensé des rudesses de sa mère. À l'idée qu'il allait pouvoir de nouveau causer avec son inconnu tout à son aise, le pauvre diable se sentait presque heureux. Il ne pensait certes pas à désobéir lorsque sa mère lui avait brutalement intimé l'ordre d'aller reprendre sa boutique et de déguerpir au plus vite. « Oh oui, mère, fit-il, faudra aider mademoiselle à chercher, à retrouver. » La mégère le repoussa violemment. Le pauvre boiteux trébucha contre le trottoir et faillit tomber. Mais il ne se plaignit pas de cette brutalité. Il se remit le mieux qu'il put sur ses jambes. Et c'est même avec un sourire qu'il dit à sa mère. « Je m'en vais reprendre ma boutique, et en route. Mais, ajouta-t-il, faudra l'aider à retrouver sa sœur. »« c'est bon, interrompit la Frochard. Ça me regarde, et je sais bien ce que j'ai à faire. » Louise avait entendu cette phrase, mais elle ne se doutait pas de la pantomime qui l'avait accompagnée. Si elle eût pu voir les gestes de la Frochard et le sourire étrange qui éclairait, en ce moment, le visage de l'horrible créature, certes, elle eût éprouvé une terreur profonde. La malheureuse aveugle craignit, au contraire, qu'on eût l'idée de l'abandonner. Elle hasarda même cette question bien timidement. « Vous n'allez pas me laisser ici, n'est-ce pas, madame ?»« Plus souvent que je vous abandonnerai, » dit la mendiante. « Ma pauvre petite, ne croyez pas ça, n'ayez pas peur. » Et comme Louise cherchait en tâtonnant dans le vide. « Venez, » ajouta-t-elle, « je suis là, près de vous. » Pierre avait fait quelques pas, puis il s'était arrêté, se retournant pour jeter un coup d'œil sur Louise. Il éprouvait quelque chose d'étrange et que n'avait encore jamais ressenti ce disgracié de la nature. Il regardait l'aveugle avec attendrissement et il se disait « Aveugle, si jeune et si jolie !» Un triste sourire se dessina sur ses lèvres. Il regarda encore une fois la jeune fille en murmurant « Jolie ? Eh bien, qu'est-ce que ça te fait à toi, l'avorton ?» Et s'arrachant alors à la contemplation qu'il avait tenue ainsi, à la même place, Pierre se mit à boiter plus vite pour aller reprendre sa boutique. Or, pendant que le rémouleur s'empressait ainsi de gagner le parapet du Pont-Neuf, la Frochard, restée seule auprès de l'aveugle, se laissait aller aux réflexions suivantes. « Ah, je suis trop vieille, dit-on, pour qu'on me donne des sous. Ah, on ne donne pas aux vieilles. C'est bon, c'est bon. » Puis, tout en ruminant ainsi, elle détaillait minutieusement les traits de la jeune fille que le hasard mettait en son pouvoir. Et la Frochard pensait. C'est qu'on ne dirait jamais à voir ses yeux qu'elle est aveugle. C'est joli, joli tout plein. Un vrai petit minois de duchesse. On veut de jeunes et jolies mendiantes. Eh bien, vous en aurez, mes bons messieurs. Et cyniquement, elle pensait. Si mon chérubin Jacques la voyait. Elle s'interrompit en s'apercevant que Pierre revenait sa boutique sur l'épaule. Saisissant la main de Louise, elle la passa rapidement sous son bras, comme si elle eût peur que la jeune fille lui échappât. Voyons, dit-elle. « Faut plus vous désoler comme ça, ma petite. Il se trouvera peut-être de bonnes âmes du bon Dieu qui vous aideront à chercher votre sœur. » Louise eut un mouvement de déception. « Et je vous ai dit, madame, que je ne connais personne à Paris, et je ne sais, hélas, à qui m'adresser. » C'est sans doute cette phrase qu'attendait la Frochard, car elle s'empressa de répondre. « Eh bien, à moi, donc. »« À vous, madame ? Pourquoi pas ? À moi, ma petite, une honnête mère de famille qui vous aidera dans vos recherches. » « Oh, merci, madame !» murmura l'aveugle. « Dieu vous récompensera du bien que vous allez faire à une pauvre abandonnée. » Cette perspective d'une récompense aussi problématique fit sourire la mégère. Néanmoins, elle reprit. « Oui, ma petite, vous aurez affaire à une brave femme qui n'a jamais fait de tort à âme qui vive et qui sera heureuse de vous donner un asile, en attendant que vous ayez retrouvé votre pauvre sœur qu'on vous a enlevée. » Louise pressa affectueusement le bras de sa protectrice improvisée. Et avec une angélique douceur, elle dit à l'horrible femme. « Ah, madame, que vous êtes bonne d'avoir ainsi pitié de moi, d'une pauvre inconnue !» Puis avec vivacité, « Nous retrouverons ma sœur, n'est-ce pas ? Nous la retrouverons. Mais oui, mais oui, affirma la Frochard. Nous la retrouverons, bien sûr, en y mettant le temps. Et, faisant une grimace significative, elle ajouta à part. Beaucoup, beaucoup de temps. Puis, reprenant la main de la jeune fille. Vous voulez la rassurer, Aster? Eh bien, allons, venez. Et tout en entraînant l'aveugle, elle lui disait. Ah, je vous avertis, par exemple. Ce n'est pas dans un palais que je vous mène, ma petite. Louise hocha tristement la tête. Hélas, madame, soupira-t-elle. Pour moi, toutes les demeures sont les mêmes, puisque je suis... Tiens, c'est vrai, interrompit la mendiante. Une aveugle. Et elle ajouta en riant sous cap. C'était pas la peine de rabaisser mon Louvre. Louise n'entendit pas, fort heureusement. La pauvre enfant était trop émue pour distraire sa pensée de l'idée fixe qui l'occupait tout entière. Et lorsque la Frochard lui dit « Venez, mon enfant du bon Dieu, venez !» elle se laissa emmener en répondant « Je me confie à vous, madame. »« Et vous êtes joliment bien tombée. Allez, ma petite !» fit la mendiante en clignant de l'œil. Et comme en ce moment le rémouleur était revenu auprès de la jolie aveugle, ainsi qu'il appelait déjà Louise, la Frochard lui dit « Allons, Pierre, suis-nous !» Au nom de Pierre, prononcé sans qu'elle s'y fût attendue, la jeune fille fit un léger mouvement de surprise. La Frochard crut que la jeune fille voulait être renseignée au sujet de la personne qui se trouvait là. « C'est à mon fils que je parle, » fit-elle. « Votre fils ? Oui, un bon travailleur, qui du matin au soir court la pratique pour gagner sa vie et aider sa pauvre mère. C'est lui qui m'a arraché ?» interrompit Louise en faisant un pas dans la direction où se trouvait Pierre. « Oui, ma petite, » continua la mendiante, « qui vous a arraché de dessous les chevaux, où vous n'étiez pas dans une jolie position, à ce qui paraît. »« C'est mon fils, ma petite, c'est lui-même. » Alors, sans hésiter, l'aveugle tendit sa main restée libre, comme pour appeler celle de son sauveur. Elle voulait témoigner toute sa reconnaissance à cet inconnu qui lui avait sauvé la vie. Mais c'est à peine si Pierre osa effleurer, du bout des doigts, la main qu'elle lui présentait. Et bien que son interlocutrice ne pût le voir rougir, il n'en baissa pas moins les yeux lorsque Louise lui dit avec effusion. « Combien je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, monsieur. Mais vous-même, en vous précipitant au-devant des chevaux pour me sauver, n'avez-vous pas couru un grand danger ?»« Bah, il a la peau dure, l'avorton !» ricana la mendiante, qui voulait maintenant mettre fin à cette conversation qu'elle jugeait inutile. Pierre était sous un charme auquel il ne pouvait s'arracher. Il restait là, absorbé dans cette pensée qui lui revenait sans cesse. « Qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'elle soit jolie ?» Cependant, la Frochard, repoussant le rémouleur pour qu'il lui fît place, emmenait Louise. Pierre avait exhalé un long soupir. Il marchait derrière la jolie aveugle, se répétant toujours. « Qu'est-ce que ça peut te faire à toi, l'avorton ?» De son côté, la Frochard se disait « Je crois que je tiens un fameux gagne-pain. » Depuis que Pierre suivait la jeune inconnue, il se sentait, avons-nous dit, tout autre. Il n'éprouvait plus, comme un instant auparavant, la fatigue d'avoir marché toute la journée et de s'être meurtri l'épaule à porter sa boutique à travers les rues. Ses yeux, qui avaient tant pleuré déjà, étaient moins sombres, moins abattus. Le rémouleur, d'ordinaire si triste, avait maintenant comme un vague sourire sur les lèvres. Il marchait presque fièrement et comme s'il eût voulu redresser sa taille un peu voûtée. On eût pu croire en outre qu'il s'efforçait de ne pas autant traîner la jambe pour ne pas boiter si bas. Et dans ce moment où s'accomplissait en lui un si notable changement, le pauvre ouvrier se disait en lui-même « C'est drôle, je ne sais vraiment pas ce que j'éprouve. Il me semble que je suis moins seul sur la terre. » Les passants devenaient de plus en plus rares. À peine quelques bourgeois attardés traversaient le pont Neuf pour regagner leur domicile. Les rares consommateurs qui se trouvaient encore dans le cabaret étaient tout au fond de l'établissement, occupés qui à boire, qui à terminer quelques parties de cartes ou de tric-trac. Sur les quais, les mariniers, ayant achevé leur journée, s'en allaient au logis, en chantonnant. La Frochard pressait le pas, entraînant l'aveugle qui la suivait silencieusement. Louise était tout entière à ses tristes réflexions. Après avoir eu un moment d'espoir, elle était retombée dans sa tristesse. Après avoir supplié qu'on ne l'abandonnât pas, elle éprouvait comme une vague inquiétude qu'elle cherchait vainement à surmonter. Et cette femme qui lui avait paru prendre intérêt à sa position, cette femme qu'elle avait remerciée du fond du cœur, de sa bonté, de sa sympathie pour son malheur, cette femme lui faisait presque peur, à présent qu'elle se sentait absolument en son pouvoir. Par moments même, sa main se prenait à trembler sur le bras de la Frochard. Cependant, elle avait toute confiance en l'homme qui l'avait sauvée. C'était pour elle un soulagement de savoir que cet inconnu l'accompagnait. Aussi fit-elle un effort sur son esprit pour en chasser les mauvais pressentiments qui l'assiégeaient. Le petit groupe, composé de Louise, de la Frochard et du Rémouleur, celui-ci fermant la marche, allait s'engager dans la rue Dauphine lorsque tout d'un coup la mendiante s'arrêta court. « Qu'est-ce qu'il y a donc, mère ?» demanda Pierre en écoutant. Mais la Frochard, sans répondre, lui montra de la main des ombres qui arrivaient par le fond de la rue. Louise, ignorant ce qui se passait, n'osait interroger. Et cependant, elle se sentait de nouveau envahie par la peur. « Ce n'est rien !» insinua la mendiante, en s'apercevant de la frayeur qui s'était emparée de la jeune fille. Mais elle jugea néanmoins prudent de rebrousser chemin. Faisant signe à Pierre de la suivre, la Frochard, longeant les murs, revint sur le quai de Conti. Au bout de quelques instants, les ombres, qu'elle avait aperçues et qu'elle avait voulu éviter de rencontrer, se dessinèrent au débouché de la place Dauphine. « Des soldats du guet !» murmura le Rémouleur à l'oreille de sa mère. « Juste !» fit la Frochard. « Tiens !» reprit Pierre, « on dirait qu'ils emmènent un prisonnier. » Et au bout d'une seconde, « Ah, c'est une femme !» ajouta-t-il. « Une pauvre malheureuse, sans doute !» répondit Louise. « Ou quelque voleuse qui a eu la bêtise de se laisser pincer !» ricana la mendiante. Puis, changeant de ton, « C'est égal, Pierre » fit-elle avec une tristesse feinte. « Allons-nous-en, je n'aime pas avoir ces choses-là, ça me fait trop de peine !» La vérité était que la Frochard ne se souciait nullement que l'aveugle, ayant été aperçu par les soldats, fut interrogé par ceux-ci. Elle supposait, avec raison, que ces militaires, apprenant l'aventure de cette malheureuse enfant, la conduiraient au bureau de police pour qu'elle fît sa déposition à qui de droit. Or, cela n'était pas le compte de la mendiante qui, plus que jamais, se persuadait qu'elle avait un gagne-pain pour la fin de ses jours. Elle supputait déjà dans sa pensée les gros bénéfices à réaliser grâce à l'exploitation d'une aveugle jeune et jolie. « Allons-nous-en un peu plus loin, » fit-elle en s'adressant à Pierre. « Nous reviendrons quand ils auront des guerpies. »« Allons, » répéta le Rémouleur, « c'est quelque fille que l'on mène à la salpêtrière. » Et il suivit sur le quai Conti sa mère qui entraînait précipitamment la pauvre Louise émotionnée de ce qu'elle venait d'entendre. Mais à peine le groupe des trois personnes avait-il fait quelques pas sur le quai qu'un cri retentissait. Ce cri, c'était la prisonnière qui l'avait poussée. En se retournant, Pierre vit la femme que les soldats emmenaient, gesticulant avec violence, essayant de se débattre, comme si elle eût voulu prendre la fuite. « Tiens, mère, » dit-il, « voilà qu'elle nous montre du doigt, cette femme. Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela veut dire, l'avorton, que ces affaires-là ne nous regardent pas, et que nous allons filer plus vite que ça. » En même temps, la Frochard rallongeait le pas dans la direction opposée à celle que semblaient prendre les soldats du guet. La pauvre Louise tremblait de tous ses membres. Elle se laissa conduire sans protester. N'était-elle pas désormais à la merci de ces étrangers qui avaient bien voulu se charger d'elle? Or, Pierre ne s'était pas trompé en disant que la prisonnière les avait désignés de la main. Celle qu'emmenaient les soldats du guet n'était autre que Marianne Vautier, la voleuse. Après qu'on eut constaté son identité et procédé à son interrogatoire dans le bureau de police, on la conduisait en prison pour qu'elle attendît le jour de son jugement. La malheureuse, qui avait pris la détermination de se soustraire à la fatale domination de Jacques, et cela à n'importe quel prix, subissait avec résignation son sort. Elle avait montré, devant l'officier de police qui l'avait interrogé, autant de repentir que de sincérité. Ses aveux avaient été complets, et en les faisant, d'une voix calme, avec la résolution formelle d'expier sa faute, Marianne Vautier avait dans le souvenir les touchantes exhortations des deux jeunes filles que le hasard lui avait fait rencontrer. Elle se rappelait avec quelles bonnes paroles ces inconnus lui avaient montré le suicide comme un crime. Elle se souvenait de la pitié que lui avait témoignée cette pauvre aveugle dont la voix avait vibré jusqu'au fond de son cœur. Elle était convaincue de s'être régénérée au contact de ces innocentes jeunes filles. Et c'est parce que ces chers inconnus lui avaient parlé d'une réhabilitation possible par le repentir sincère qu'elle était venue d'elle-même au-devant du châtiment. Après avoir fait l'aveu complet de sa misérable existence, après avoir raconté dans ses détails à l'officier de police, comme elle l'avait fait précédemment à Henriette et à Louise, le vol odieux qu'elle avait commis, Marianne Vautier était demeurée comme soulagée d'un poids qui lui avait jusque-là broyé le cœur. Et calme, résignée, elle marchait au milieu des soldats qui la menaient en prison. Pendant tout le commencement du trajet, elle se tenait la tête baissée et comme en proie à une profonde rêverie. Puis, en apercevant de loin la tête du pont, elle n'avait pas été maîtresse d'un brusque mouvement. Ce que voyant, le sergent Duguay l'interpella. « Eh bien, qu'avons-nous donc? Est-ce que nous voudrions nous aller jeter par-dessus le pont ?»« Non, » avait répondu Marianne en reprenant son attitude calme. « Je me souvenais que tout à l'heure, là-bas, j'avais couru au-devant de vous pour vous supplier de m'arrêter. » « Et ça vous faisait quelque chose de repasser par là ?» insinua le sergent. « Oui, » répondit simplement Marianne. À mesure qu'elle avançait dans la direction du fleuve, où, sans la charitable intervention des deux sœurs, son cadavre aurait été emporté par le courant, elle éprouvait un irrésistible serrement de cœur. Elle évoquait le souvenir de celles qui avaient été ses bons anges gardiens. Elle avait donc repris résolument sa marche, lorsqu'en arrivant à l'extrémité de la rue, elle aperçut trois personnes qui semblaient fuir avec une certaine précipitation. Elle jeta machinalement un regard de ce côté, et soudain, elle poussa un cri. C'est ce cri qu'avait entendu Pierre et qui avait si fort effrayé la Frochard. Ce cri, Marianne l'avait poussé en reconnaissant l'une des jeunes filles auxquelles elle pensait en ce moment même. Elle avait de loin reconnu l'aveugle dont les bonnes paroles résonnaient encore dans son cœur. Oui, oui, c'était bien elle! Mais alors, pourquoi sa sœur n'était-elle plus là? Pourquoi ce qui l'accompagnait avait-il l'air d'entraîner la jeune fille? Tout à coup, les regards de Marianne s'étaient arrêtés sur l'homme qui suivait les deux femmes. Elle le connaissait bien, le rémouleur boiteux. C'était le frère de Jacques, le frère de son misérable amant. Pourquoi cet homme accompagnait-il l'aveugle? Et cette femme qui tenait la jeune fille étroitement par le bras? Cette femme, c'était la Frochard! La Frochard! Louise en compagnie de la Frochard! Marianne, à cette vue, se sentit frappée d'épouvante. Pourquoi la malheureuse enfant avait-elle consenti à suivre la mère et le frère de Jacques? Où la conduisait-il? Elle avait peur de le deviner, et sans prendre le temps de réfléchir, elle avait poussé un cri de stupeur et d'effroi. Par cette exclamation désespérée, elle avait tenté d'attirer l'attention de l'aveugle. Elle aurait voulu qu'elle pût l'entendre et comprendre ce que signifiait ce cri déchirant. Mais en voyant que le groupe fuyait devant elle, que la mégère, après s'être arrêtée un instant, s'était remise à entraîner la jeune fille, Marianne, oubliant qu'elle était prisonnière, prit son élan pour courir vers ceux qui emmenaient l'aveugle. Mais à ce mouvement qu'il prit pour une tentative d'évasion, le sergent Duguay fit un bond et empoigna la fugitive. Il appela ses hommes. « Faites bonne garde » commanda-t-il. Aussitôt, les soldats entourèrent leur prisonnière et voulurent l'emmener. Mais Marianne se débattait maintenant et tentait de s'arracher des mains des soldats. Elle faisait des efforts surhumains pour recouvrer sa liberté, ne fût-ce que pendant quelques secondes. Juste le temps de courir vers l'aveugle et de lui dire « Fuyez ces gens-là, fuyez-les, car cette femme est la mère de l'homme qui m'a précipité dans la fange où je suis tombée. » Et, à bout de force, Marianne s'adressa au sergent. « De grâce, supplia-t-elle, laissez-moi aller parler à ces gens que vous voyez là-bas. » Un éclat de rire accueillit cette demande. Marianne ne se tint pas pour battue. « Je vous en prie, monsieur, ne m'empêchez pas, ne me refusez pas. Vous voyez bien dans quel état je suis. Vous voyez bien que je ne vous mens pas et que je reviendrai. »« Vous êtes donc folle ?» répondit le sergent. « Oui, je suis folle. Mais si vous me refusez ce que je vous demande, vous allez peut-être laisser s'accomplir un grand malheur. »« Assez causé, ma belle, » prononça le sergent en prenant le ton sévère et s'adressant à l'escouade. « Allons, vous autres, en route !» Et, ajouta-t-il durement, « Si elle refuse de marcher, portez-la !» En recevant l'ordre d'agir vigoureusement, les soldats s'étaient emparés des bras de leur prisonnière et allaient obéir à leur chef. Marianne eut un cri de rage impuissante. En faisant un nouvel effort, elle se mit à lutter plus énergiquement que jamais. Mais prise à bras le corps de façon à ne plus pouvoir bouger, la malheureuse femme perdit l'espoir de courir auprès de l'aveugle et se mit à crier de toutes ses forces. « Mademoiselle, mademoiselle, méfiez-vous de ces gens-là! Méfiez-vous de là !» Mais sa voix ne parvenait plus aux oreilles de Louise. La Frochard avait, comme on le sait, jugé prudent de faire activer le pas à l'aveugle. La pauvre fille avait de la peine à la suivre, mais qu'est-ce que cela faisait à la mégère? L'important était pour elle que sa proie ne lui échappât plus. Pierre suivait, silencieux et fort impressionné des cris qu'il avait entendus. Cependant, il ne fit pas de réflexion à cet égard. se contenta seulement de se retourner plusieurs fois pour voir ce qui se passait entre cette femme et les soldats du quai. Et tristement, il dit à sa mère, « C'est bien sûr une prisonnière qu'on emmène et qui a essayé de s'évader en route. Mais cette fois, si elle s'échappe, elle aura de la chance, car on la porte comme un paquet. » Le fait est que la pauvre Marianne avait été enlevée à bout de bras malgré sa résistance. Elle n'espéra plus pouvoir s'échapper des mains de ceux qui la retenaient, car elle se mit à pleurer en s'écriant « Seigneur, ayez pitié d'elle comme elle a eu pitié de moi. Épargnez-lui toute peine et tout malheur. » « Amen !» fit le sergent du guet. Et l'escouade se remit en marche en longeant le quai des Augustins. Lorsqu'en se retournant, la Frochard vit qu'il n'y avait plus pour elle de danger, elle fit brusquement volte-face. Surprise de ce changement de direction, l'aveugle hasarda cette question. « Pourquoi retournons-nous sur nos pas, madame ?»« C'est que nous allons prendre par le plus court, ma petite !» Et elle ajouta en toisant la pauvre fille qui ne pouvait, hélas, la voir. « Il commence à se faire tard, et je n'ai pas l'habitude de traîner si longtemps dans les rues. » Louise ne répondit plus, et docilement elle suivit la mendiante. Celle-ci était retournée à l'entrée de la rue Dauphine. Elle s'y engagea, non sans avoir donné un dernier coup d'œil au cabaret dont la croisée s'était refermée. Et, pensant à son chérubin, à son Jacques, qui sans doute voulait tenir tête à tous les autres, elle envoya de la main un tendre adieu à ce fils bien-aimé. Pierre, tout absorbé, ne songeait guère à la préoccupation de sa mère. Que lui importait désormais que la Frochard eût une préférence pour son fils aîné? N'aurait-il pas, à l'avenir, une compensation dans le souvenir de cet aveugle qui s'était emparé de sa pensée tout entière? Certes, il se promettait, le brave garçon, de faire tout au monde pour retrouver la sœur disparue de celle qu'il considérait maintenant comme sa protégée. Mais ce n'est pas sans mélancolie que le pauvre rémouleur songeait qu'il faudrait se séparer de son aveugle lorsque celle-ci aurait retrouvé sa sœur. Il sentait bien qu'il en serait affligé, mais il se promettait de savoir où elle habiterait. Et chaque jour, dans ses courses, il ferait en sorte de passer devant sa maison. Et l'aveugle saurait qu'il est là, car il crierait à tue-tête « À repasser les couteaux, ciseaux, canifs, à repasser les couteaux !» Le pauvre boiteux oubliait en ce moment sa difformité qui le rendait le point de mire des railleries des gamins du quartier. Il se disait que sa petite aveugle ne le verrait pas, et cette pensée le consolait doucement. Pourvu qu'il la vît, lui, il serait heureux. Et c'est en ruminant toutes ses pensées que Pierre continuait à suivre mélancoliquement Louise. Après être arrivé à peu près à moitié de la rue, la Frochard s'arrêta de nouveau. On était à l'entrée d'une ruelle sombre, étroite, mais qui raccourcissait encore un peu la distance qu'il y avait à parcourir pour arriver au taudis de la mendiante. « Pourquoi que nous passons par là ?» demanda Pierre, qui craignait pour les pieds de l'aveugle le pavé rond et glissant de la ruelle. « Qu'est-ce que ça te fait à toi, l'avorton ?» riposta la mendiante d'une voix dont elle ne prit plus la peine de dissimuler les notes aigres et qui fit tressaillir l'aveugle. Le rémouleur se le tint pour dit et emboîta le pas à la suite de sa mère, qui entraînait brutalement la pauvre Louise. Enfin, cette marche pénible arriva à son terme. La Frochard n'était plus qu'à une centaine de mètres de son domicile. Avant de se hasarder dans la rue qui y conduisait, elle jeta un regard méfiant autour d'elle, afin de se bien assurer qu'il n'y avait pas de voisins sur le pas de leur porte. C'est qu'elle ne tenait pas à ce qu'on l'interrogeât sur cette jolie aveugle, avant qu'elle n'eût forgé quelque histoire pour expliquer sa présence. Certaine de ne pas être vue, elle prit Louise par la main, avec une rudesse qui ne fut pas sans surprendre la jeune fille, et elle s'engagea dans la rue. Au moment où l'aveugle venait ainsi de tomber dans les griffes de la Frochard, le carrosse dans lequel se trouvait Henriette endormie s'arrêtait à la grille du pavillon du Bel Air.